Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est tout pile 9h40, vous êtes toujours sur France Inter et c'est un nouvel instant même qui recommence.
Merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Libération parle ce matin d'un cyclone de réactions avant même que le livre ne paraisse. L'ouvrage est intitulé « Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique ». Il est publié aux éditions La Découverte. Je le précise car les auteurs criblent tous les canaux, toutes les voies, V-O-I-E-S, et les voies, V-O-I-X, qu'empruntent les lobbies de l'industrie pour battre en brèche le principe de précaution et disqualifier les combats pour la santé ou l'environnement. Et ce, au nom de la science, au nom de la bonne science, celle qui n'entraverait en rien le progrès, traduire qui n'entraverait en rien la loi du marché. Quels sont ces canaux? Eh bien, des maisons d'édition, justement, des journaux, des radios, des chaînes de télévision et une myriade de blogs, de comptes Twitter ou de chaînes YouTube, ainsi que des agences de relations publiques qui fabriquent des arguments scientifiques tout prêts pour journalistes paresseux ou simplement ignorants. Ce livre est dense, précis, fouillé, très polémique, édifiant et passionnant.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour à tous les deux, je vous présente mes invités, deux Stéphane, une femme, Stéphane Aurel, bonjour.
Bonjour.
Et un homme, Stéphane Foucard, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes tous les deux journalistes au Monde, vous êtes le journal, comme vous-même, les bêtes noires de nombreux trolls, c'est-à-dire de Twitter très actifs, très agressifs sur les réseaux sociaux, et d'une poignée de multinationales aussi qui vous en veulent. Vous co-signez cet ouvrage avec un sociologue qui s'appelle Sylvain Laurence. Alors, je vous propose de commencer par ces agences qui fournissent clé en main des citations de scientifiques aux journalistes. J'aimerais que vous nous racontiez à quoi elles servent et surtout que vous nous décriviez ce modèle anglais qui va peut-être servir de matrice à un projet en France. Stéphane Aurel.
Oui, il y a ce modèle britannique qui existe depuis 2002, qui s'appelle le Science Media Center, qui a été créé par, étrangement, un groupuscule de militants marxistes qui sont devenus avec le temps libertariens, prenant l'argent...
Libertariens, il faut que vous expliquiez ce que c'est, parce que c'est clé dans votre ouvrage.
C'est une idéologie qui porte des idées selon lesquelles on devrait être libre de tout faire, y compris de marchander son propre corps.
Mm-hmm. Donc c'est une espèce d'ultra-libéralisme poussé à l'extrême.
C'est l'autre côté de l'ultra-libéralisme, quelque part. Et donc c'est assez curieux ce passage qu'il y a eu de ces militants d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Et ce qu'ils ont fait au milieu de ça, c'est donc créer une agence de communication qui a une sorte d'apparence officielle, qui est hébergée dans des locaux prestigieux à Londres et qui fournit une sorte de formule sandwich dessert-boisson à des journalistes, c'est-à-dire que ils proposent sur leur site internet des citations de scientifiques qui réagissent à l'actualité, à un article scientifique, à une compte, toujours sur des sujets plus ou moins controversés, soit le climat, des produits chimiques, etc. Et le problème, c'est que...
Ça s'appelle des kits de réaction rapides. C'est-à-dire que ça dit aussi, Stéphane Foucard, ce qui se passe dans les rédactions, des rédactions qui manquent de journalistes réellement formés pour ces sujets extrêmement complexes.
Oui, quand vous êtes un journaliste généraliste pressé, que c'est vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous ne connaissez pas de scientifique, il y a un sujet un petit peu compliqué qui tombe, une étude qui fait polémique, qui fait controverse, qui met en cause des intérêts économiques, par exemple, eh bien, c'est très pratique d'aller sur ce site et puis de copier-coller des réactions toutes faites de chercheurs dont vous ne savez pas pourquoi ils s'expriment sur ce sujet, comment ils ont été choisis, est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts.
Et ça marche, Stéphane Aurel, c'est-à-dire que, évidemment, en Angleterre, il y a des études très précises et des grands journaux qui ont enquêté, c'est-à-dire que ces citations, elles se retrouvent ensuite disséminées dans toute la sphère médiatique.
Oui, des grands journaux, y compris le Guardian, en fait, ont recours aux citations de ces scientifiques, et j'utilise scientifique avec un petit accent dessus, parce que des universitaires de l'université de Bath, qui est une université spécialisée sur l'influence, justement, ils ont compté, en fait, ils ont fait les comptes de qui sont exactement ces experts, et ils se sont rendus compte qu'il y avait environ 20% des personnes, à l'époque où ils ont fait cette étude, qui n'avaient pas de diplôme scientifique, dans le sens avec des critères...
Voire qui étaient des scientifiques spécialisés dans une toute autre discipline que celle sur laquelle ils étaient cités, ce qui pose aussi...
Ou surtout des lobbyistes, c'est-à-dire qu'il y a des... Par exemple, une des personnes les plus citées par le Science Media Center, c'était la lobbyiste en chef des biotechnologies en Grande-Bretagne et au niveau européen aussi, quoi.
Alors Stéphane Foucart, il y a un projet de loi en France qui vise à créer une maison de la science. Évidemment, vu de l'extérieur, ça a l'air pavé de bonnes intentions.
Bah oui,
il faut protéger la science.
Bien sûr, c'est tout ce qui sous-tend en fait la création de ce genre d'organisme, c'est de promouvoir le bon usage de la science dans le débat public, le fait de ne porter à l'attention des lecteurs et de l'opinion que des faits qui sont avérés, qui sont prouvés, de pas partir dans des grands délires sur tel ou tel médicament miracle ou produit qui serait extraordinairement dangereux, etc. Donc en fait, ça part d'un principe tout à fait vertueux et en réalité, à l'usage, ce qu'on observe. Notamment au Royaume-Uni, c'est que ça reconfigure complètement la façon de travailler des journalistes. Ça favorise un journalisme paresseux, un journaliste qui n'enquête pas, qui se contente finalement de réactions toutes faites. L'ancien président de l'Association des journalistes scientifiques britanniques nous disait, en fait, les gens restent assis à leur bureau et citent des gens qu'ils n'ont pas vus, avec qui ils n'ont pas discuté, et ils prennent des citations que d'autres ont recueillies pour eux.
Stéphane Aurel, si on devait simplifier, résumer l'enjeu, celui auquel vous vous confrontez dans tous les dossiers sur lesquels vous avez enquêté, on sent bien qu'il y a une espèce de tension maximum et peut-être plus aiguë que jamais entre la notion de bénéfice et celle de risque en réalité. Il y a les tenants du bénéfice et les tenants du risque, c'est ça si je résume?
Oui,
moi qui ne suis pas journaliste scientifique.
Il y a cette espèce de discours ronronnant, il n'y a pas de risque zéro, qui en fait...
Qu'on rencontre sur tous les sujets, hein, santé, climat, environnement.
Oui, et qui en plus a pas la même valeur selon la question dont on débat, mais qui en fait véhicule une idéologie. C'est pas du tout des idées scientifiques étayées en fait derrière ça. C'est vraiment ce qu'on raconte dans le livre, c'est l'usage de la science de gardien autoproclamé de la science qui au nom de la science en fait avance une idéologie qui n'a rien à voir avec les faits scientifiques.
C'est ça, Stéphane Foucart, le principe de précaution comme gardien d'une forme de capitalisme, tout simplement. C'est ça, si je vous ai bien lu, si je vous ai bien compris.
Absolument, c'est exactement ça. Derrière ces fameux gardiens autoproclamés de la science ou de la raison, selon qu'on les considère d'une manière ou d'une autre, c'est toujours un discours qui utilise la science pour générer des arguments, des éléments de langage qui systématiquement sont là pour protéger des intérêts industriels.
C'est-à-dire
qu'à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, que dans le débat public, vous avez quelqu'un qui se réclame de la science, d'ailleurs je ne sais pas trop ce que c'est la science, il y a énormément de science, la science ça dépend des disciplines, ça dépend des questions qu'on pose, ça dépend de tout un tas de choses, et bien à chaque fois que quelqu'un se réclame de la science, parle au nom de la science, en défense de la science, de l'esprit critique, du rationalisme, etc., c'est à peu près systématiquement pour défendre des intérêts industriels.
C'est extrêmement difficile, extrêmement intéressant, extrêmement difficile pour le grand public de savoir qui parle, d'où il parle, et le fait de défendre la science, ça a l'air tellement noble que c'est compliqué pour nous, les profanes, de douter et d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ça. J'aimerais vous faire écouter un grand visage de télévision. Il s'appelle Mac Lesguy. Il présente E égale M6 depuis toujours. Il est adoré des enfants, adoré des parents et on le connaît pour ses célèbres lunettes.
Le concombre est originaire d'Inde, la tomate du Mexique. Et pourtant, toute l'année, même en plein hiver, nous pouvons acheter ces deux légumes cultivés tout près de chez nous. Comment est-ce possible? Vous allez découvrir comment les agriculteurs ont perfectionné une technique inventée par les Romains, la serre, pour cultiver ces légumes-fruits dans des conditions idéales. Reportage de Céline Fatou.
Qui parle, d'où on parle, c'est aussi ce qu'apporte votre ouvrage, Stéphane Aurel et Stéphane Foucart, c'est-à-dire de dessiner une carte des médias en France et de montrer qui est de quel côté, celui du risque ou celui du bénéfice, celui de l'industrie et des lobbies, celui que vous défendez, Stéphane Foucart.
Alors, à mesure qu'on voit en fait l'échiquier politique se reconfigurer, en particulier à gauche, autour de l'écologie et de la protection de l'environnement, eh bien, on voit que cette thématique-là, elle est fortement appuyée sur des considérations scientifiques. Et donc, la science, et en tout cas la médiatisation de la science, le marché de l'information scientifique, devient un enjeu considérable pour l'autre côté de l'échiquier politique, c'est-à-dire la droite, les journaux conservateurs, qui sont les plus promptes à se saisir de cet argument de la bonne science. On va expliquer aux gens ce que c'est que la science.
Vous citez les Échos, vous citez la Tribune, vous citez l'Opinion. l'Opinion, très 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 actif sur ces sujets. Vous citez Valeurs Actuelles, vous citez aussi l'Express, qui sous couvert de « On défend le progrès » se met du côté des industriels.
Ouais, ou Le Point, enfin bref.
Le Point,
oui, et
le
vous
point,
avez
absolument.
Vu toutes ces covers des news magazines ces derniers temps, les écologistes qui racontent n'importe quoi, l'obscurantisme, et ça, il y a une sorte d'amalgame qui est systématiquement entretenu entre la défense de l'environnement, la défense de la santé et la crainte obscurantiste, les marchands de peur, des gens qui ne supportent pas le moindre risque dans un projet.
L'hystérie, Stéphane Aurel, l'hystérie.
Oui, l'hystérie, en fait, qui est un argument extrêmement éculé qui accompagne la naissance du mouvement environnementaliste, en fait. Rachel Carson, qui est une écrivain qui est de plus en plus connu en France, mais qui est très connu dans le monde anglo-saxon, qui est l'auteur de Printemps silencieux, en 1962, qui a un livre extrêmement important, qui a alerté sur les dangers des pesticides. Et son livre a été disqualifié, accueilli par une agressivité intense des industriels, mais aussi de certains pouvoirs publics américains. Elle a été attaquée sur son genre, en fait. Ça a été la disqualification d'hystérie.
Parce qu'elle est une femme.
Dès le départ, on n'a pas du tout pris en compte le fait qu'elle était aussi une biologiste extrêmement, extrêmement douée. Et cette disqualification d'hystérie, elle accompagne le mouvement environnementaliste. Et aujourd'hui, c'est assez frappant, en fait, quand on voit les critiques sur le principe de précaution, justement, sur cette mise en balance du risque et du principe de précaution. Il y a toujours cette notion que les gens qui défendent le principe de précaution seraient des peureux. Hein, vous voyez, ce côté, c'est des peureux, c'est des femmelettes. Hein,
et y a cette des peureux, des rétrogrades, puisqu'on est contre le progrès, donc forcément on est passéiste. Hein, je renvoie à la citation du président de la République sur les Amish. Et alors en matière d'hystérie, je crois que vous avez qualifié vous-même le point Godwin. C'est une femme, évidemment. Elle s'appelle Élise Lucet. En janvier 2019, elle animait un envoyé spécial consacré au glyphosate.
J'ai plus de glyphosate que Lilian Thuram.
Ouais.
Ça, c'est un souci pour moi.
Comme je suis quelqu'un qui fait assez attention à ce qu'il mange et tout, j'étais persuadé d'être à zéro. Je suis d'une naïveté totale.
Élise Lucet veut que je fasse pipi là-dedans ? Hein ? Son chevaux, on voit spécial.
Les voilà, tous ceux qui ont participé au Glyphotest, ils sont ici. Et ils ont été extrêmement surpris des résultats. C'est Julie Gaillet qui en a le plus dans l'organisme parmi la trentaine de citoyens et de personnalités qui ont accepté de participer à ce test.
Stéphane Foucard, vous nous racontez brièvement ce qui s'est passé après la diffusion de ce reportage. Dans toute l'histoire de la télévision et du service public, ça n'était jamais arrivé.
C'est-à-dire que c'est un peu comme avec le livre qu'on signe aujourd'hui avec Stéphane Aurel et Sylvain Laurent. C'est-à-dire que les réactions hostiles et les critiques arrivent avant même la diffusion de l'envoyé spécial en question. Donc sur les réseaux sociaux, mais la veille de la diffusion du sujet, on a déjà tout un tas de gens, mais y compris des journalistes, hein, de manière tout à fait extraordinaire, qui critiquent de manière extrêmement virulente.
Les mêmes qui signe pour les titres qu'on vient de citer. Hein.
Voilà, oui. Pareil, entre autres. Et tout un tas de tweetos qui critiquent et qui démolissent littéralement le sujet avant même qu'il ne soit diffusé, en propageant des faits qui sont complètement extravagants et complètement erronés. Quoi.
Quand vous dites tout un tas de tweetos, Stéphane Foucard, il faut vraiment préciser. C'est-à-dire c'est dans des volumes et à un niveau d'agressivité, mais surtout quantitativement, c'était spectaculaire ce qui s'est déferlé sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est spectaculaire. Le Parisien avait demandé à un petit cabinet de conseil en communication d'analyser un petit peu le trafic sur Twitter autour de l'envoyé spécial. Et c'était quelque chose qui n'avait jamais été vu. Quoi.
Jamais été vu, c'est ça. Et ensuite, il y a eu des enquêtes de Libération autour des journalistes. Géraldine Vosner, Emmanuel Ducrot, journaliste Europe 1, journaliste à l'Opinion. Un Mac Lesguy, c'est énormément dévoué. On vient d'en parler, ces gentilles petites émissions pédagogiques et familiales sur M6, il s'est énormément dévoilé dans ses combats et dans ses convictions ensuite sur le réseau social. J'en viens à cette partie que j'ai trouvée passionnante dans votre livre. Vous avez eu le courage, et l'un et l'autre, d'aller rencontrer vos trolls, c'est-à-dire ceux qui, sur les réseaux sociaux, vous ont menacé, agressé, insulté. Vous, Stéphane Foucard, il a fallu que vous bloquiez plus de 300 comptes. À cette période-là,
oui, mais là, je pense que j'explose le millier de comptes bloqués. Là.
Oui, oui, c'était le moment où, en fait, où ça a basculé.
Ouais, c'était le moment où ça a basculé.
Alors, vous avez rencontré vos trolls. Il faut expliquer, Stéphane Aurel, ce que c'est qu'un troll. Il faut expliquer ce que sont ces tenants du scepticisme. Parce que c'est comme la science, le scepticisme, ça nous paraît quelque chose de tout à fait positif et intéressant.
Les trolls.
Les trolls. Alors, commençons par les trolls.
Qu'est-ce qu'un troll, comme dit Valérie Lemercier
dans
un célèbre film?
Oui.
Les trolls sont des personnes qui cherchent la polémique, en fait, de manière parfois agressive sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un résumé assez gentil. Mais dans la réalité, ça peut tourner très rapidement à l'insulte ou au harcèlement de meute, en fait. Donc, c'est un signal est lancé. Il y a tout un groupe qui s'agrège autour. Mmh. Et sur votre compte Twitter, vous avez des signaux, en fait, on vous dit une notification pour quand quelqu'un vous tague, c'est-à-dire quelqu'un vous nomme
c'est
sur
ça.
Twitter.
Une notification qui se transforme en 20 000 en quelques heures, c'est ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous appelez la zététique, Stéphane Foucard ?
La zététique, c'est l'art du doute.
Oui.
Donc c'est une démarche intellectuelle en fait qui est très inspirée de la démarche scientifique et qui vise en quelque sorte à appliquer à la vie courante, aux idées qu'on se forme, et bien les mêmes principes que la démarche scientifique, c'est-à-dire de soumettre à un doute méthodique chaque fait ou chaque chose qu'on chaque
et
idée.
Et en quoi ça a des effets aussi négatifs?
Alors en fait la zététique de notre point de vue, elle a complètement dérivé, c'est-à-dire que c'est devenu une sorte de zététique à simple tranchant, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes affirmations qui sont passées au crible de la zététique, c'est-à-dire c'est toujours par exemple les personnes qui s'inquiètent d'être exposées à des produits chimiques qui sont interrogées au prisme de la zététique par tous ces tweetos, ces tenants de l'esprit critique, etc. Et jamais, par exemple, les mécanismes par lesquels ces produits chimiques ont été autorisés à être mis sur le marché, qui sont très souvent, on a fait avec Stéphane Aurel un certain nombre d'enquêtes là-dessus, qui sont souvent très problématiques. C'est ça qui est extraordinaire.
Ce doute systématique, ce scepticisme, c'est devenu le bras armé de l'argument des lobbies, en réalité, qui sont du côté des industriels.
Exactement. Mmh. C'est devenu, en fait, un argumentaire que les industriels utilisent pour faire douter les gens du tort qu'on leur fait ou qu'on peut leur faire.
Alors Stéphane Aurel, ce qui est intéressant, c'est que en fait tout ça est contemporain d'une explosion sur YouTube, mais vraiment d'une explosion de chaînes de vulgarisation scientifique qui sont assez passionnantes. C'est plein d'amateurs de science qui ont surgi, vous en citez des kyriels. C'est intéressant aussi parce que dans le même temps, eh bien par exemple les agriculteurs ont créé leur propre chaîne YouTube et s'expriment sur le glyphosate et s'expriment sur tout un tas de sujets extrêmement polémique. Et il y a donc là toute une nouvelle sphère d'influence pour les agences de relations publiques et pour les lobbyistes.
Oui, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des agences spécialisées il existe même des logiciels en fait pour calculer combien, en fonction du nombre de personnes qui vous suivent sur une chaîne YouTube, combien d'argent ça peut générer. Donc il y a des agences qui repèrent ces gens-là. Après, il y a tout en fait quand on parle des YouTubeurs et de la vulgarisation scientifique. C'est pas à nous de dire quel est le bon ou la mauvaise science.
C'est ça,
science.
Et puis il n'y a pas Monsanto derrière chaque tweet et il n'y a pas Monsanto derrière chaque blog, ni derrière chaque chaîne YouTube animée par un amateur de science ou un agriculteur.
Oui, parce que effectivement, pour nous, c'est poser la question est-ce que ces gens sont payés, en fait. Quand on est attaqué par quelqu'un donne le signal et que derrière il y a 900 notifications en deux heures, est-ce que c'est la première personne est payée ou la deuxième? Et donc ça a été une question qui a beaucoup animé en fait notre enquête, et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y a des bulles en fait dans lesquelles les gens comme cette zététique qu'on a évoqué, qui est devenue pour un certain nombre de ces gens une sorte de mini-secte en fait,
avec des
phrases surgelées.
Avec toujours les mêmes images qui reviennent, toujours les mêmes arguments qui reviennent, Stéphane
Foucard,
pour conclure.
Il y a des effets de communauté qui sont très forts et on s'est rendu compte, par exemple, on s'est amusé dans le livre à
suivre. Alors il y a des effets de communauté, mais il y a bien des influenceurs qui travaillent pour les agences de relations publiques. Et encore une fois, pour le grand public, c'est extrêmement difficile de savoir qui est qui et qui dit quoi. C'est-à-dire vous prenez les influenceuses beauté sur YouTube, à qui L'Oréal et consorts envoient des produits qui sont montrés à l'antenne. Nous, aujourd'hui, on est aptes et éduqués à repérer ce placement de produits. On l'est beaucoup moins quand il s'agit de chaînes scientifiques sur YouTube.
Oui, absolument. On a repéré avec Stéphane et Sylvain dans ce bouquin des éléments de langage, des argumentaires tout faits qui sont faux, hein, qui relèvent de choses totalement erronées, et que tout d'un coup, tout le monde se met à répéter. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup, en quelques semaines, le même argument qui est répété par des milliers de personnes. Tous les vidéastes qui parlent par exemple du glyphosate vont vous sortir l'argument du risque et du danger. C'est quelque chose qui est absolument pervasif, généralisé. Et évidemment, chaque personne qui répète ça n'est pas payée. Mais il y a des effets de circulation de l'information qui font qu'à un moment donné, cette chose-là va devenir quelque chose comme la vérité et va même être reprise dans les médias grand public, etc.
Vous l'avez compris, les gardiens de la raison enquêtent sur la désinformation scientifique. La bataille, jour 1, ça a déjà commencé. Stéphane Foucault, Toucard, Stéphane Aurel, Sylvain Laurence, et c'est édité par La Découverte. Merci à tous les deux d'être venus ce matin dans l'Instant M. Bonjour Ali Rebey.
Bonjour Sandrine Villard. Je sens que vos invités vont passer par le studio de Grand Main.
Ah oui, ça m'étonnerait pas.
Et ce matin, on s'intéresse à l'obsession de la notation dans tous les domaines de notre vie quotidienne. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. C'est un professionnel qui avait subi des notations qui ont mis aussi, à mal votre réputation, etc.
Dans le genre, les effets de l'ultralibéralisme, la notation et les classements.
N'hésitez pas à nous appeler.